Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média. Tous les médias, toutes les formes de culture au menu. Un roman très particulier aujourd'hui dans nos indispensables et une série très attendue, Germinal. Pour démarrer l'émission, dans quelques instants, il y aura le journal des médias et les audiences télé avec Louise Bernard. Et pour démarrer la deuxième heure, Bruno Donnet pour ses télescopages. Et enfin, pour clore l'émission, Marc-Antoine Lebray et ses voix. Notre info média va miser sur les paris sportifs. Malgré l'arrivée des sites spécialisés, le papier a encore sa place. La preuve, Paris Turf, illustre quotidien hippique qui lance une nouvelle formule ce week-end. Nous serons avec le directeur de la rédaction, Sébastien Darras. Et puis nos invités, deux réalisateurs, chacun dans son genre. Jérôme Cornuau pour Fugueuse, c'est une série ce soir à 21h sur TF1. Série suivie d'un documentaire sur le même thème, Prostitution, ado en danger, signé Pauline Liétard. Les deux projets sur le même sujet et c'est justement ça qui est passionnant, confrontation. Enfin, la comédienne Claudia Tagbo qui cartonne sur France 2 avec la collection Le Crime le va si bien, elle incarne la nouvelle série d'OCS Max, Frérot, qui se passe dans le milieu du MMA, ces combats en octogone grillagé où tous les coups sont permis, même pour les filles. Il y aura aussi son portrait d'avant la célébrité, le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, tous les coups sont toujours permis pour les filles aussi, hein, vous savez.
Oui, mais dans le MMA, théoriquement, c'est interdit. Au sommaire de votre journal des médias, des coups
la politique, événement médiatique ce soir à la télévision. Je vous raconte les coulisses du match France 2 BFM TV. Une décision de justice inédite pour Koh-Lanta, le mariage Netflix Roald Dahl, Philippe Etchebest, youtubeur, et puis le nouveau jury de The Voice Kids.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont largement regardé la série Les Invisibles de France 2. 4 190 000 téléspectateurs devant les deux premiers épisodes. C'était le final d'ailleurs, les deux derniers épisodes, donc 20,8% de part d'audience. Ça devrait peut-être convaincre France 2 de faire une suite. La suite est en écriture mais pas encore commandée. Peut-être que ça les achèvera, ça achèvera de les convaincre. Deuxième, TF1 avec la série Good Doctor. C'était la suite de la saison 4. 3 240 000 téléspectateurs. Légèrement moins que la semaine dernière mais c'est à peu près dans les scores habituels. 15,2% de part d'audience. Troisième, Cauchemar en cuisine, en forme, 2 610 000 téléspectateurs, 13,2% de part d'audience. Et puis à noter le mauvais score, même le flop pour France 3. Cuisine ouverte de Maurice Sacco était diffusée pour la première fois en prime. 770 000 téléspectateurs, oh là là. Seulement 4,2% de part d'audience. France 3 qui est donc sixième chaîne derrière Arte et TMC notamment.
Culture Média.
À la une du journal des médias, donc, en quelque sorte des coups, la bataille de débats politiques ce soir à la télévision.
Oui, d'un côté France 2 qui lance sa nouvelle saison politique avec son émission Élysée 2022, Léa Salamé, Thomas Soto qui reçoivent Valérie Pécresse pour un long entretien, puis la candidate débattra avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. De l'autre côté, un peu plus loin, sur la 15, BFM TV organise un débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Les deux programmes politiques vont donc se faire face à la même heure. Et si la date de l'émission de France 2 est officielle depuis plusieurs semaines, BFM TV a, elle, annoncé la tenue de son débat explosif dimanche dernier seulement. Choix de programmation perçu en interne comme un coup bas par le service public. Nous avons contacté BFM TV. Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de la chaîne, plaide non coupable.
On ne s'est pas installé face à France 2, on s'est installé dans le jour qui nous semblait être le plus intéressant pour nous. Le jeudi, c'est le jour un peu privilégié pour faire de la politique. Toutes nos émissions face à BFM jusque-là ont été faites un jeudi. Et l'idée était de monter ce débat le plus rapidement possible, puisque c'était l'envie de Jean-Luc Mélenchon de le faire rapidement. Et donc ça a été le premier jeudi de disponible, et il se trouve que c'était celui que France 2 avait également choisi pour son émission politique. Mais l'idée n'était pas d'être en contre-programmation de France 2 ou de s'opposer à France 2, ça sera deux offres complémentaires.
Alors c'est pas exactement ce que raconte le Canard Enchaîné qui rapporte une autre histoire. Jean-Luc Mélenchon aurait imposé cette date, un pied de nez à France 2, car il aurait dû être le premier invité de leur émission politique, mais les négociations se seraient mal déroulées.
Et sur le choix de l'interlocuteur, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a demandé à BFM TV de débattre avec Éric Zemmour.
Alors non, pas vraiment. On a demandé à Marc-Olivier Fogiel de nous raconter comment s'était monté ce débat.
Assez simplement, la semaine dernière, j'ai vu que Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, sur les réseaux sociaux, proposaient de débattre entre eux. J'ai discuté avec l'un d'un côté et l'autre pour voir dans quelle mesure BFM TV pouvait être le média qui les recevrait. Éric Zemmour étant à l'époque toujours sur CNews, l'idée que ça se fasse, j'allais dire, en terrain neutre, dans un terrain qui ne soit pas la chaîne qui accueille Éric Zemmour tous les jours, a évidemment plaidé en notre faveur. Et puis la force de BFM TV, aujourd'hui chaque jour touche plus de 12 millions de personnes, c'est la chaîne de l'événement, la chaîne qui a marqué les campagnes présidentielles précédentes, donc et l'un et l'autre en avaient conscience.
Et après réunion avec les équipes de chacun, la chaîne a acté que le débat se déroulerait en deux parties. Une première sur la sécurité, les relations internationales et l'immigration. Et puis une seconde sur la fracture sociale, pouvoir d'achat, écologie et politique sociale. Par ailleurs, BFM TV proposera un fact-checking en direct pour vérifier les chiffres et les informations avancées par Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Ce sera ce soir à 20h45 sur BFM TV. Quant à Élysée 2022, c'est sur France 2, juste après le journal de 20h. France 2 qui a déprogrammer son feuilleton quotidien à un si grand soleil pour pouvoir enchaîner directement après le journal et espérer retenir les millions de téléspectateurs.
C'est le générique de Koh-Lanta qu'on entend là et la justice vient de prendre une décision inédite sur Koh-Lanta.
Oui, interdiction de dévoiler la suite de Koh-Lanta sur les réseaux sociaux, la suite de la saison diffusée en ce moment même, sous peine de lever de l'anonymat et donc d'une possible condamnation. Une victoire pour la production de l'émission car depuis plusieurs semaines, des comptes sous pseudonyme s'amusaient à révéler des informations, informations censées être confidentielles, notamment les éliminations des candidats. Par ailleurs, la justice a également statué sur le cas d'un ancien candidat, d'après Le Parisien, désormais à chaque publication révélant des informations confidentielles, il se verra infliger une amende de 1 000 euros par infraction constatée.
Ça, c'est le tout-doum de Netflix. Netflix qui achète les droits de toutes les œuvres de Roald Dahl.
Oui, la plateforme acquiert même la société qui gère les droits de l'écrivain. Roald Dahl, c'est un géant de la littérature jeunesse. Plus de 300 millions de livres vendus dans 63 langues. Mathilda, Sacrée Sorcière. Et puis, le célèbre Charlie et la Chocolaterie. Netflix travaille à des adaptations en séries animées, mais pas seulement. Elle promet aussi des projets d'édition, de jeux, de théâtre et des produits dérivés.
Philippe Etchebest lance un nouveau projet sur YouTube.
On y va ? Clap ! Allez, c'est parti.
Il possédait, vous aimez bien mon petit effet sonore,
ouais.
Il possédait déjà une chaîne YouTube, mais il ne l'alimentait pas vraiment. Désormais, le chef a pris des bonnes résolutions et il va poster une vidéo par semaine, tous les mercredis.
J'ai profité de ce temps qui m'était donné finalement, de la situation, pour faire quelque chose d'un peu exceptionnel, quelque chose qui me tenait à cœur. Vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander, c'était de faire des recettes facile et pas cher. Alors, pendant un mois, je me suis mis en immersion totale. J'ai travaillé pour partager quelque chose avec vous. J'ai fait 100 recettes. 100 recettes qui, pour moi, étaient indispensables, que vous retrouverez dans un livre, mais aussi à travers des vidéos. Toutes les recettes seront en vidéo.
Et vous voulez connaître la première recette choisie
évidemment,
pour la
vidéo ?
Évidemment,
à condition qu'elle soit facile et pas chère. Et
ben oui, l'île flottante. Je pense que ça répond à la promesse. Et puis avec ses 286 000 abonnés, Philippe Etchebest a une audience déjà assurée.
286 000, c'est pareil. Oh là ! Le générique est parti ! On connaît le nouveau jury de The Voice Kids.
Les noms
les effets sonores
déjà.
Ce matin,
ouais, ouais,
c'est la farandole.
C'est ça, les noms circulaient déjà, mais cette fois-ci, ils sont officiels. Patrick Fiori, Kenji Girac, re-signent pour une 8e saison. Et puis à leur côté, deux petits nouveaux, Louane, Julien Doré, wow. Qui rejoignent les célèbres fauteuils de coach. Ouais, wow, comme
ça,
vous dites. D'autant que tous deux ont une expérience à partager avec les candidats. Ils doivent leur carrière à un télécrochet. Louane, elle était demi-finaliste de The Voice et Julien Doré a remporté la Nouvelle Star. C'était il y a 14 ans. Alors, on ne connaît pas encore la date de diffusion du programme, seulement que ce sera en 2022, car pour l'instant, The Voice Kids a laissé sa place à l'édition anniversaire All-Star de la version adulte diffusée en ce moment même.
Merci beaucoup, Louise Bernard. À demain pour un nouveau journal des médias et les audiences. Et on aura les audiences du débat, surtout. Et
alors,
des deux débats.
Non, pas celle de BFM TV, puisqu'elle tombe à 11h, les audiences des chaînes info. On aura celle de France 2. Et donc, peut-être que lundi, je pourrais vous redire un mot sur le gagnant des audiences.
Voilà, j'ai presque envie de dire vivement lundi. Dans un instant, notre info média du jour, un quotidien qui croit encore au papier et qui croit au Paris sportif. Il existe depuis près de 75 ans. C'est Paris Turf qui sort ce week-end sa nouvelle formule. Pour en parler, le directeur de la rédaction arrive. Son cheval est en bas. Sébastien Darras avec nous, à tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Ils occupent une place importante, si ce n'est essentielle, dans le monde sportif, les paris. Et malgré l'essor des leaders du numérique, il existe encore des titres de presse spécialisés dans le pari sportif, et notamment un quotidien depuis 1946, c'est l'après-guerre, Paris Turf ou Paris Turf, illustre journal de course hippique qui vient d'être acheté par le patron de Free, Xavier Niel. Après une période difficile, le journal lance sa nouvelle formule ce week-end. Alors pourquoi ce choix de fédérer des lecteurs autour du papier? Quel avenir pour ce titre de presse unique en son genre, et quel avenir face au numérique et au site de Paris en ligne? Élément de réponse avec Sébastien Darras, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes le directeur de la rédaction de ce quotidien. D'abord, vous dites Paris Turf ou Paris Turf?
Paris Turf.
Paris Turf. Pierre Benichou disait Paris Turf.
Ouais, mais c'est le turf en anglais, le gazon.
J'ai bien compris, mais je ne savais pas si ça se prononçait à la française ou à l'anglaise. Paris Turf. Je m'y tiens. Donc, le journal existe depuis 1946, vous venez d'être racheté par le patron de Free, Xavier Niel, via sa holding personnelle. La situation était difficile, qui préexistait, racontez-nous. Dans quelle situation était le journal ?
La situation était difficile, effectivement, mais j'ai envie de dire un petit peu comme tous les journaux, c'est un petit peu historique depuis quelques décennies. Je parle du print, hein, bien évidemment,
oui, bien sûr.
Du papier, avec des modèles qui sont revus aujourd'hui. Il n'y a pas que Paris Turf, il n'y a pas que notre groupe. Je pense à tous les grands quotidiens nationaux qui sont obligés de revoir leur modèle, avec notamment des abonnements digitaux qui prennent énormément d'importance.
Frédéric Le Chevalier, le DG du groupe, disait dans le JDD « Nous avons failli mourir ».
Oui, c'est vrai. Le groupe et le journal Paris Turf ont connu des grandes difficultés. Il a fallu revoir un modèle économique, modernisé.
Non, mais c'est plus qu'un journal, parce qu'un quotidien peut parler de ce qui se passe, mais là, en l'occurrence, à cause du Covid, il y a eu l'arrêt des courses.
Ouais,
donc c'est très difficile de faire un journal. C'est comme quand le journal L'Équipe a dû faire face au fait que les championnats étaient arrêtés. C'est quand même très 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 difficile de faire son métier, puisqu'il n'y a pas de matière à traiter.
Effectivement. La presse généraliste a pu parler du Covid. Nous, c'était compliqué. Il n'y avait plus de courses. Et pourtant, il y a des courses 365 jours par an. Mm-hmm. Donc, le journal, comme je le disais, était en souffrance, comme toute la presse écrite, la presse papier depuis quelques années. Et puis, ça a fini de nous enfoncer un peu la tête sous l'eau.
J'ajoute à ça la crise de Presstalis, qui était le distributeur de la presse. On a beaucoup parlé ici et là. En revanche, ça a touché, hélas, tous les journaux. Mais alors, la question, c'est, vous étiez, si je ne me trompe pas, vous occupiez du service hippique chez nos confrères de RMC.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu prendre la direction de Paris Turf? Si vous êtes venu, c'est que vous y croyez.
J'y crois. Alors, je suis peut-être un des rares derniers à croire encore à la presse papier, au print, mais dans une vraie complémentarité avec le digital. On ne tient pas un journal entre les mains comme on se balade sur sa tablette ou en mobilité sur son téléphone. Je crois à la complémentarité. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Hein, c'est
bien
le cas
sûr.
De tous les plus grands quotidiens. Et effectivement, si j'ai accepté cette mission, alors c'est déjà par affection de ce groupe. Moi, j'ai Paris Turf dans ma poche depuis une trentaine d'années, ou sur le siège passager de ma voiture. Moi, je vais avoir 45 ans, mais
vous avez 15 ans.
Oui, je suis passionné de sport, passionné de course, passionné de chevaux, et donc Paris Turf a toujours eu une place importante dans ma vie. Donc, cette mission qu'on m'a confiée, j'ai de l'affection pour le groupe, et je crois à ce projet qu'on est en train de monter.
Alors, d'abord le journal, puisque vous en parlez, puisque vous lisez depuis que vous avez 15 ans, donc ça fait 30 ans, qu'est-ce qu'on trouve dans Paris Turf ?
Alors, Paris Turf, on évoquait tout à l'heure les journaux sportifs, les courses hippiques sont un sport, mais c'est un sport, j'ai envie de dire, un peu particulier dans la manière de le traiter. On a de l'éditorial, on en parle...
Non mais racontez-moi ce qu'on trouve dans le journal.
Comme dans n'importe quel sport, à d'autres sports, on trouve des pronostics.
Voilà,
on va parler un peu flambe.
Ouais.
On trouve des pronostics. Paris Turf est connu pour avoir les meilleurs pronostiqueurs. Il y a des concours, des championnats de France tous les ans pour avoir les meilleurs pronostiqueurs. On l'appelle pas la Bible du turfiste pour rien, mais également beaucoup de data, de données, de performances. Alors ça peut paraître comme ça un peu curieux au premier abord, mais les courses de chevaux, ça s'étudie. Voilà, on étudie les courses de chevaux. C'est pas du loto, c'est pas aussi facile à pronostiquer qu'un match de football. Donc il faut savoir l'étudier, il faut savoir faire le papier, comme on dit. Et pour faire le papier, il faut avoir Paris Turf entre les mains.
Ça existe des joueurs professionnels? Est-ce qu'il y a des gens qui ne vivent que de ça, ou c'est un loisir?
Alors oui, ça existe. Moi, depuis que je vais aux courses, donc depuis quelques années déjà, j'en ai connu peu. C'est plutôt un loisir. C'est un loisir intelligent qui demande de la réflexion. Alors évidemment, il ne faut pas jouer n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est l'intérêt d'avoir un journal spécialisé entre les mains.
Alors c'est encore plus complexe que ça, puisque Paris Turf, ce sont en réalité quatre journaux hippiques, Paris Turf, IMSEF, le Premium, les Paris Courses, Week-end et la Gazette des Courses. Qu'est-ce qui les différencie ?
Ce sont des modèles différents, qui s'adressent certainement à des publics différents aussi, même si on a tendance, j'ai envie de dire, un peu à démocratiser tout ça. Je pense qu'il faut arrêter. Les courses, comme tous ces milieux un peu hermétiques, sont un peu habitués à l'entre-soi. Voilà, il faut essayer de s'ouvrir un petit peu à un public un peu différent. Quand on parle de paris sportifs et de l'ouverture des paris sportifs sur le web, il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, on a l'impression que c'était... Enfin oui, finalement, c'était hier. Mmh. Je pense qu'il faut essayer de s'ouvrir à un public aussi un peu plus jeune, peut-être.
Mmh. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui différencie les journaux ? Moi, je suis capable de vous dire ce
qu'est-ce qui les différencie.
Gala, de Paris Match, de L'Express, de Marianne.
Qu'est-ce qui les différencie ou qu'est-ce qui les différenciait ? Paris Turf, on va dire, va s'adresser à un turfiste... un peu plus habitué. Paris Course, peut-être un turfiste qu'il faut prendre par la main.
Ouais, mais rapidement, rapidement, parce que j'ai plein de questions.
Alors, Week-end et la Gazette, peut-être plus à des habitués, à des joueurs de quintet, qui est la course vitrine, on va dire, tous les jours.
À combien d'exemplaires sont tirés ces quatre titres ?
On va dire qu'en tout, on doit atteindre 100 000 exemplaires. Et on parle de ces quatre titres, mais aussi, on peut aussi parler des supports digitaux, puisqu'il y a plusieurs sites...
On va parler du digital, évidemment.
Voilà,
ensuite,
il y a plusieurs sites
partie.
Internet qui, là, peuvent atteindre le million ou le million et demi de visiteurs.
Le groupe Paris Turf, c'est aussi un employeur. Combien de personnes travaillent autour de vous sur ces titres ?
Alors, aujourd'hui, sur la globalité, il y a plus de 150 personnes.
Qui sont... Et combien de pronostiqueurs parmi les personnes ?
150 pronostiqueurs, non, je plaisante. Il y a entre une dizaine et une vingtaine de pronostiqueurs... dont on va dire deux pronostiqueurs vedettes, voilà, qui sont un peu la vitrine du journal.
Alors, le modèle économique, qui sont les lecteurs, quel est ce marché et qu'est-ce qui change justement dans le journal ? Évidemment, le digital, on continue d'en parler, on est avec Sébastien Darras, c'est le directeur de la rédaction de Paris Turf au galop, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de Paris Turf, le plus ancien journal de Paris sportif. C'est un quotidien, il existe presque depuis 75 ans, depuis 1946, quasiment depuis la Libération. Vous êtes le directeur de la rédaction, Sébastien Darras. Merci encore d'être avec nous en direct dans ce
avec
studio.
Plaisir.
C'est un quotidien, Paris Turf, c'est une force ou une faiblesse ? Les quotidiens sont plus coûteux à produire.
Alors, au niveau industriel, alors, je ne sais pas si c'est une force ou une faiblesse. C'est une force d'être présent évidemment dans le paysage tous les jours, surtout pour traiter d'une actualité.
Je vais poser la question différemment.
Qui se déroule 365 jours par an.
Vous vous êtes posé la question de réduire la périodicité.
On peut se poser la question de réduire la périodicité à partir du moment où le modèle industriel ne fonctionne plus. Pour l'instant, ça fonctionne. Pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation. Il n'y aura pas d'augmentation de prix, en tout cas, avec le lancement de cette nouvelle formule. Donc, on reste un quotidien et on reste un quotidien présent tous les jours en kiosque.
Que fallait-il changer et qu'allez-vous changer à partir de samedi ?
Alors, 75 ans d'existence avec une maquette qui a très peu changé. Je crois que la seule évolution qui a eu lieu, bon, à part quelques logos différents, ça a été la couleur, à un moment. Je sais que ça peut paraître très curieux, comme ça, en 2021, mais c'est le cas. On l'a encore, ce format broadsheet, pour que les auditeurs se rendent compte, on est quand même sur plus de 50 cm de haut, plus de 35 cm de large. Donc, quand on ouvre le journal, c'est quand même pas très simple.
C'est plus gros que le format tabloïd du Parisien.
C'est
de
le
Libération.
Double d'un tabloïd. Donc on passe du broadsheet au tabloïd, ce qui a été une vraie difficulté, un vrai défi dans la refonte et la modernisation de cette maquette.
Pour faire tout rentrer, il y a plus de pages donc, où vous avez choisi des caractères plus petits, où il y a moins d'infos,
parce qu'il faut faire des compromis.
Si on réduit le format, il y a un endroit où il faut
est-ce
bouger.
Est-ce que le fait d'avoir plus de pages est un compromis ? On double le nombre de pages, tout simplement. Un 24 pages devient un 48. Les petites astuces, parce qu'on a travaillé quand même pendant de longs mois sur cette formule, sont effectivement tournées vers la lisibilité, qui est amélioré. Ça peut paraître curieux, mais c'est vrai que voilà, le lecteur peut avoir tendance à penser qu'on lui a coupé son journal en deux, qu'il va forcément moins bien voir. Ça n'est pas le cas, c'est le contraire.
Et votre lecteur a ceci de particulier, c'est que c'est souvent un parieur. C'est d'ailleurs même le but d'achat, la raison d'achat de Paris Turf, et ils écrivent dessus.
Et ils écrivent dessus. Il faut garder ces petites marges, effectivement, pour avoir, pour avoir la place d'écrire ou de réécrire ces pronostics. Vous voyez, les sportsmen, les parieurs, je parlais tout à l'heure d'entre-soi, de milieu hermétique, voilà, sont des habitués. Ils sont quand même un certain nombre en France, mais c'est vrai qu'ils ont leurs habitudes et les changer, c'est prendre un gros risque.
On va parler du numérique parce qu'évidemment c'est totalement complémentaire pour chaque journal, quoi qu'il y ait des journaux qui se passent du numérique. Vous êtes un journal pour parieurs hippiques et des plateformes de paris en ligne à pléthore, Betclic, PMU bien sûr, Winamax, je ne vais pas tous les citer. Comment vous situez par rapport à eux? C'est quoi votre politique sur le numérique?
Alors il a fallu, pour être très honnête, il a fallu faire pousser cette jambe digitale. Le groupe avait plusieurs supports digitaux qui n'étaient pas forcément... dont on s'était pas forcément occupé ces dernières années. On a essayé d'être très complémentaires dans la refonte du print, du papier et digital. Quand je disais tout à l'heure que c'était complémentaire, c'est vrai qu'un journal, on est à J+1 sur l'info, alors que le digital, on est dans l'immédiateté. Mmh.
Mais comment est-ce que vous monétisez? C'est-à-dire que j'imagine que vous avez créé un site Paris Turf, mais est-ce que le site est payant ou est-ce qu'il est gratuit? Parce qu'un journal, c'est 2,50.
Alors, si la monétisation gratuit, du journal, voilà, elle est facile. Hein.
Ouais.
C'est le prix du journal. Sur le web, il y a forcément, on passe forcément par des paywalls, par des abonnements. On peut lire aujourd'hui son journal, d'ailleurs, c'est forcément moins cher, parce que ça coûte moins cher à produire, en numérique, et ça marche très bien. Et plutôt que d'avoir son journal le lendemain, J+1, on l'a le soir même. Et puis, il y a tous les services qui vont à côté. Je pense qu'on doit pouvoir s'informer sur le digital, faire son papier, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire consulter les pronostics et les performances, mais aussi regarder les courses. Et ça va être une des nouveautés du digital. On va pouvoir suivre les courses en live sur le site de Paris Turf. Donc, on a la globalité, l'info dans sa globalité.
Il y a un partenariat aussi avec Equidia.
Il y a un partenariat avec Equidia.
Alors, Equidia, c'est la chaîne.
Equidia, voilà, puisqu'Equidia, aujourd'hui, fournit les images des courses en France. Je vais d'ailleurs leur faire un petit peu de pub. Je pense que les courses françaises sont les mieux filmées au monde.
Vraiment?
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Que savent faire les gens en France, que ne savent pas faire les autres? Ou plutôt, il y a plus de caméras?
Ouais, on a un modèle français, on oublie souvent de le dire, mais on a un modèle français qui est très envié dans les courses, avec un GIE, un groupement d'intérêt économique qui finance cette filière, qui fait vivre quand même 70 000, 80 000 personnes en France. Donc on est sur un modèle vertueux, ce qui nous permet d'avoir un grand nombre de caméras sur les hippodromes. Je suis un peu en train de faire leur pub, mais en même temps... On peut être fier de ce modèle fier de ce modèle français et on peut être fier aussi de ces partenariats qui vont nous permettre d'offrir à nos utilisateurs voilà, une belle expérience.
Combien y a-t-il de parieurs en France? Vous avez un chiffre? Moi, j'ai un chiffre que je peux donner.
Oui.
L'Autorité nationale des jeux parle de 628 000 comptes de paris hippiques ouverts sur les plateformes de paris en France en 2020. Il y a combien de parieurs en tout?
Oui, c'est à peu près ça, on va dire, au quotidien. On était à 800 000 il y a encore quelques années. Et je pense qu'on peut doubler ce chiffre sur des événements exceptionnels. Là, on a le prix de l'Arc de Triomphe qui va se tenir le 3 octobre à Longchamp. Donc sur l'Arc ou sur le prix d'Amérique, par exemple, on a du parieur occasionnel, comme on a tous dans nos familles qui ont envie d'aller faire un ticket le dimanche.
Ou comme les gens qui jouent au loto seulement le vendredi 13.
Voilà, exactement.
Le prix de l'Arc de Triomphe, c'est une grosse compétition. Je veux dire, ça ramène beaucoup de gens. Vous vendez plus de numéros à ce moment-là?
Oui, tout à fait. C'est le journal le plus vendu de l'année. On double quasiment nos ventes.
Et là, on va trouver quoi dans Paris Turf spécial prix de l'Arc de Triomphe?
Alors, on aura un cahier spécial avec, bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt, c'est de faire le papier, c'est de s'informer avec différents reportages, et notamment en Irlande, par exemple, chez Aidan O'Brien, qui est peut-être le meilleur entraîneur du monde actuellement. Voilà, on a une de nos journalistes qui est partie en Irlande voir les chevaux à l'entraînement pour avoir... les meilleures infos. Paris Turf, ça doit être les oreilles et les yeux du sportsman.
Les oreilles et les yeux du sportsman. Merci beaucoup Sébastien Darras, directeur de la rédaction de Paris Turf, dont la nouvelle version sort ce samedi chez les marchands de journaux. C'est vendu dans les hippodromes aussi, j'imagine.
Alors, ça n'est plus vendu sur les hippodromes.
C'est pas vrai.
Non, ça a été le cas pendant de très nombreuses années, mais ça n'est plus vendu sur les hippodromes.
Pour quelle raison?
C'est une très bonne question.
C'est un sujet polémique.
Non, c'est pas un sujet polémique.
Vous ne le savez pas.
J'imagine que c'est économique.
On verra ça.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Pauline Liétard.
Bonjour.
Vous êtes réalisatrice de documentaires, vous avez déjà signé des docs sur la haute fonction publique ou sur l'ONU, et vous signez un documentaire qui passe ce soir en deuxième partie de soirée sur TF1, Prostitution, ados en danger. C'est dans le cadre d'une grande soirée présentée par Ariel Zelmak. Le documentaire va suivre deux épisodes de la série Fugueuse, avec notamment Michael Youn, Sylvie Testu ou Fanny Cottençon, série réalisée par vous, Jérôme Cornuau. Bonjour.
Bonjour.
On vous avait déjà reçu ici pour la série Peur sur le lac. Vous avez donc réalisé cette série Fugueuse, mais pas seulement, également adapté, ça vient d'un format ou d'une série canadienne. Que raconte-t-elle et pourquoi vous a-t-elle intéressé cette série ?
Elle traite de la prostitution des mineurs et explique un peu tout le mécanisme et l'engrenage dans lequel une mineure peut tomber. Dans une famille où tout va bien, ils s'entendent parfaitement et malgré ça, tout d'un coup, le piège se resserre autour d'elle et elle rentre dans la prostitution.
En l'occurrence, c'est Léa, une ado sans histoire, mais tout d'un coup, elle rencontre un type.
Oui, dans le cas de la... Il y a plusieurs possibilités, on verra dans le documentaire qu'il y a des pistes différentes de tomber dans la prostitution. Nous, l'idée, c'était de tomber par la voie d'un piège amoureux qui lui est tendu. Elle pense que c'est sincère et au fur et à mesure, l'engrenage la saisit. Et ce qui est intéressant, c'est de voir sa capacité de déni et de s'opposer à sa famille au début en pensant à l'amour et ensuite réalisant la triste réalité.
Le déni, on l'entend même dans la bande-annonce de Fugueuse.
Ma prof de danse, elle m'a proposé un stage de dingue à Londres.
Oula !
Vous voyez pas que je suis en train de grandir ?
Si, mais tu nous mets devant le fait accompli. Franchement, Léa, c'est une sainte. Fais-lui confiance.
Je t'aime.
J'ai rencontré le petit copain de Léa.
Il a 26 ans.
T'étais où cette nuit ? Avec qui ?
Toute la famille est en bordel à cause de toi !
C'est tout le temps ma bonne avec toi !
Tu restes ici, Léa !
Ça ressemble à toi, une fumée. Elle est sous son emprise complètement. Il manipule les jeunes filles, elle tombe amoureuse, ensuite il les pousse à se prostituer.
On va les retrouver.
Tu vois pas que t'as retourné le cerveau, là ?
Je l'aime, c'est l'homme de ma vie.
C'est l'homme de ma vie, dit Léa. On est dans le sujet, très amoureuse. Elle ne voit pas la manipulation dont elle est victime. Elle s'enfonce non seulement dans la violence, mais dans la prostitution. C'est un sujet marginal, la prostitution des mineurs. Vous avez des chiffres, Jérôme Cornuau. Je poserai la même question, évidemment, après à Pauline.
Les chiffres sont évoqués entre 5 et 10 000 adolescentes et adolescents en France. Mais c'est des chiffres qui ont déjà 5-6 ans. Ouais. Donc, ils sont plutôt autour des 15 et 17 000 en France.
Pauline Liétard.
Il faut surtout regarder le nombre d'affaires judiciaires. En fait, c'est ça qui a explosé. Et là, c'est vraiment chiffré. En ces 5 dernières années, ça a augmenté de 70% le nombre de dossiers. Et on en voit très régulièrement dans les tribunaux autour de Paris, à Paris. Enfin, même maintenant dans toute la France. Ouais.
Le problème qu'il y a, c'est que parfois, les filles ne se rendent pas compte qu'elles font quelque chose de mal qui va leur causer un préjudice énorme. La première fois, les proxénètes pour séduire les filles, ils font comme si elles étaient leur petite amie. Après, la manipulation, il y a la violence. Mais souvent, c'est ce qui frappe, la prostitution est volontaire.
Oui, c'est ça qui est assez sidérant quand on va au procès. On s'attend à voir des tonnes de plaignantes, des parties civiles constituées de ces filles victimes. Et en fait, il n'y a personne, même les avocats des associations s'en étonnent, parce qu'elles se considèrent comme complices ou en tout cas partie prenante de ce business. Et effectivement, il y a énormément de manipulations. Ça commence par des histoires d'amour, comme on voit aussi dans la fiction. Et puis, il y a après un piège qui se referme avec de la violence, des menaces pour ne plus sortir du groupe. Mais il y a aussi un peu le côté bande d'amis. Ok, on se prostitue, mais on prend la drogue, on s'éclate entre amis, on va en boîte, on se paie des belles choses. Et c'est ça qui fait adhérer ces filles aussi.
Vous avez suivi Luna, elle a 17 ans. Vous vous souvenez combien elle peut gagner en 24 heures ?
Nous le dit, 1 700 €. Et donc effectivement, là, elle essaie de s'en sortir et de chercher un job classique. Sauf que quand on lui annonce le SMIC mensuel, elle se dit, moi, c'est ce que je peux gagner en une journée. Et même si c'est horrible, même si je me fais taper, violenter, elle a du mal à renoncer à cet argent facile.
Luna a 17 ans, mais parfois ça commence beaucoup plus tôt. Vous avez retrouvé Virginie, une ancienne prostituée qui a porté plainte contre un réseau, qui a réussi à s'en sortir. Elle raconte.
Quand on a 14 ans ou 15 et qu'on commence déjà à faire ça, 14-15 ans, après on fait 16 ans, 17 ans, ça fait 2 ans qu'on fait ça. Et après, pour s'arrêter, c'est très 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 compliqué. Limite, je dirais qu'il y en a qui ont perdu leur virginité dans ça, quoi. Et c'est pas comme ça qu'on voit les choses, quoi. C'est pas avec un client, avec un homme qui nous paye, et en plus qui reste que 30-20 minutes, et qui nous passe de l'argent. On fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, des choses qu'on s'est toujours dit qu'on ne ferait jamais. C'est pas une vie de faire ça.
Pauline Liétard, je parlais de votre documentaire, très grosse enquête, très gros travail. Combien de temps vous a-t-il fallu pour approcher tous ces témoins, notamment Luna, 17 ans ?
J'irai environ 7 mois. C'est un travail très très long parce qu'effectivement, comme elles sont sous emprise, elles n'ont aucun intérêt, aucune envie de parler. Et même quand elles commencent à s'ouvrir, elles ne viennent pas au rendez-vous. On se fait planter des tas et des tas de fois avant de pouvoir vraiment les voir et avoir leur témoignage. Donc c'est très dur.
Ouais. Pour les rencontrer, vous faites comment ? Vous passez par Internet ? Parce qu'il faut dire que ça a l'air d'être un supermarché, Internet.
Oui, notamment des plateformes, on peut les citer, mais comme Instagram, et après ça débouche sur des conversations sur Snapchat, etc. Aussi un petit peu dans la rue, mais effectivement c'est beaucoup beaucoup sur les réseaux. Et puis après, parfois via les parents ou par des amis d'amis qui savent que tel ou tel fils se prostitue.
Alors il y a un témoignage très fort, parce qu'une jeune fille se prostitue alors qu'elle habite encore chez sa maman. Vous avez même réussi à filmer des scènes de vie dans la cuisine avec sa mère, un petit enfant en bas âge, je ne sais pas si un petit garçon ou une petite fille, il est flouté. Et il y a même une séquence dans laquelle sa maman dort sur le canapé du salon en face de la porte d'entrée de chez eux pour empêcher sa fille de sortir au milieu de la nuit pour rejoindre les proxénètes et faire des passes. Vous avez vu cette séquence,
oui, Jérôme Corniaud ? C'est terrifiant. C'était terrifiant.
On est d'accord.
Oui, c'est terrifiant.
Comment vous avez réussi à obtenir ça, que les deux personnes se laissent filmer ? Et est-ce que la fille savait que vous tourniez un documentaire sur la prostitution ou pas du tout ?
Nous, on était en contact avec sa maman qui avait envie de témoigner de sa détresse, parce qu'évidemment, elle est aidée par une avocate dans sa démarche, comme on le dit à la fin du documentaire. Elle a porté plainte contre la bande qui a séquestré sa fille à un moment, enfin, il y a 2 ans. Donc, elle avait envie de témoigner de ça aussi pour montrer qu'il y avait beaucoup de parents concernés, que ça peut arriver à tout le monde, puisque c'est voilà, une famille où, a priori, tout va bien, mais en fait, non.
Mais est-ce que la fille savait que vous tourniez un reportage là-dessus, ou est-ce qu'elle pensait que vous tourniez juste un reportage sur sa maman ou la vie d'une famille ?
Alors, on lui a dit, après, je ne sais pas dans quelle mesure elle l'a intégré, sachant qu'il y a un gros non-dit dans la famille autour de ce sujet-là.
Bien sûr, il y a un déni.
Elle était censée nous parler aussi, et puis elle a dit oh non, je vais me coucher, puis après elle ne voulait plus nous parler, parce qu'en fait, elle n'en a jamais parlé à sa mère, donc en parler à la télévision, c'est encore plus compliqué. Mais sa mère lui a dit, oui, que je pense qu'elle lui a bien expliqué, mais après, voilà, ce n'était pas évident.
Ça s'appelle « Prostitution ado en danger ». C'est un documentaire qui suit ce soir Fugueuse, 2 épisodes de la série signée Jérôme Corniaud. Le doc, c'est signé Pauline Liétard. Ils sont avec nous. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie du réalisateur Jérôme Corniaud, Fugueuse, série qui passe ce soir à 21h sur TF1, série orientée, tournée vers la prostitution des mineurs. Série suivie d'un documentaire « Prostitution ado en danger » signé lui, Pauline Liétard. Je voudrais parler de la manipulation, et parfois c'est beaucoup plus grave, Pauline Liétard. Il peut y avoir du kidnapping de la part d'un réseau de proxénètes. Et croyez pas que tout cela n'arrive que dans les grandes villes, en région parisienne, à Lyon ou à Marseille, non. Vous avez trouvé un cas dans une petite ville de Bretagne, une fille de 17 ans qui est dans un bar avec sa copine. Elle croise un type qui est sympa, qui leur parle, avenant, souriant. Il leur offre à boire, on sait pas ce qu'il y a dans les verres. Tout d'un coup, elle tombe dans les pommes, les deux ne se souviennent plus de rien, un témoignage très fort.
On s'est réveillés, on était dans une chambre d'hôtel, et avec plus rien, plus de papier, plus de téléphone, plus d'affaires. Après, le cauchemar a commencé. Hein.
Qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là quand vous êtes réveillés ?
Qu'on devait prendre de la cocaïne et qu'on devait être testé par lui. Pour voir si on pouvait faire des clients.
Ça veut dire quoi, tester ?
Il nous a violés. Il nous a forcés à avoir des rapports avec lui.
Élise est séquestrée dans un hôtel en banlieue parisienne, à 400 km de chez elle. Le proxénète publie une petite annonce sur Internet pour vendre le corps de la jeune fille.
Il y avait sa copine qui nous maquillait, qui nous habillait, qui nous disait quoi faire. Ça a défilé, défilé, défilé. Donc, toute la journée, on se droguait, on était forcés, on était forcés. On devait faire 500 euros par jour. Si on ne le faisait pas, ils nous tapaient ou nous violaient encore.
C'est votre voix qu'on entend, Pauline Liétard. Évidemment, les voix ont été masquées pour pas qu'on les reconnaisse. Oui. Combien de temps le calvaire a-t-il duré ?
Pour elle, c'est plusieurs mois. Quoi. Ça a duré plusieurs mois jusqu'à. Elle a essayé de s'échapper une première fois, il les a retrouvés, et puis elle a réussi enfin à s'échapper définitivement. Mais elle va en avoir pour toute sa vie en termes de traumatisme, tellement ce qu'elle a vécu était barbare. Quoi.
Après, il y a eu un procès. Le proxénète a été retrouvé. Il a pris 15 ans de prison ferme. Évidemment, vous le dites, pour elle, la santé s'est dégradée pour la jeune fille. Elle va payer ça à vie. Vous avez réussi à filmer après un autre procès, ou plutôt a approché une bande de criminels, une bande de proxénètes. À ma connaissance, c'est une première. J'avais jamais entendu ces gens-là parler. Ils sont très jeunes au procès. Et entre deux interruptions, ils rigolent. On a l'impression qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils ont fait.
Oui, parce que effectivement, comme les filles en plus là ne viennent pas à la barre, ils se rendent pas compte qu'ils leur ont fait du mal en les faisant enchaîner des passes, etc. Et puis là, c'est un réseau qui est assez structuré avec des chefs de réseau, puis des lieutenants qui font office de chauffeur, gardien, garde du corps. Et c'est la bande de copains qui fait travailler les filles, qui profite de l'argent et qui rigole. Et souvent, ils viennent du trafic de stupes et ils se sont rendus compte que c'était plus rentable.
On va en parler justement de la différence entre le trafic de stupes et la prostitution. Leur mot d'ordre, c'est l'efficacité. On va écouter l'un d'entre eux qui explique l'organisation, on est carrément dans une PME.
Chacun avait un rôle bien défini, il y avait la logistique, il y avait des secrétaires qui prenaient en charge la téléphonie et les messageries pour faire venir les clients dans les appartements. Il y avait le rôle aussi de bodyguard, ceux qui devaient rester avec les filles pour au cas où il y avait des clients qui ne payaient pas leurs prestations, ou par exemple les chauffeurs qui devaient emmener des filles d'un point A à un point B pour les clients en extérieur.
Il y a un policier qui vous explique la balance entre le risque et le bénéfice, suivant que les délinquants travaillent autour de la prostitution plutôt qu'autour de la drogue. Pourquoi est-il plus aisé de travailler comme proxénète plutôt que comme dealer ?
Pour plusieurs raisons, mais déjà quand on est en voiture avec trois filles maquillées, on n'est pas en flagrant délit de quoi que ce soit, alors que quand on transporte de la drogue dans sa voiture, ouais, on est plus à risque. La drogue, c'est des territoires tenus, bah, comme on voit en plus avec des guerres du territoire assez sanglantes. La prostitution, c'est très mobile, on peut changer d'hôtel, de zone. Là, on a vu des réseaux qui partaient dans le sud quand c'est les vacances et qui changent de région, en fonction des opportunités. Et les filles, en plus, ne vont pas les balancer. Donc, pour l'instant, ils sont plutôt gagnants à faire ce genre de trafic, enfin de crime, quoi.
Mais... Jérôme Cornuau dans Fugueuse, il est question de prostitution, on l'a dit, c'est à la fin de l'épisode 3 seulement, je peux pas tout raconter, c'est la raison pour laquelle on passe pas d'extrait ici, c'est un choix dans une série qui dure seulement 6 épisodes, pourquoi ça arrive à la fin ?
Non, ça arrive au milieu, mais parce que...
Au milieu, pardon, oui, 3 sur 6, c'est au milieu, vous avez raison.
Non, mais c'est parce que on prend le temps, c'est l'avantage d'une série, c'est qu'on prend le temps de suivre toutes les étapes. Donc chaque épisode, il y a un pas qui est franchi, une nouvelle marche, une nouvelle marche, une nouvelle marche, et on finit comme dans le reportage, dans un truc d'abattage de gros, où elle est complètement violentée, droguée, et donc c'était de disséquer chacune des démarches, en fait, chaque étape, et comment elle s'éloigne de plus en plus de sa famille, et étudier du point de vue des parents et du point de vue de la jeune femme. Comme ça, on a vraiment, et en même temps, étudier les dommages collatéraux dans toute la famille.
Question classique, qu'est-ce qu'on peut dire dans une fiction qu'on ne peut pas dire dans un reportage ? Déjà, je dois dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de témoignages dans votre reportage, mais évidemment, les visages sont floutés, les voix sont trafiquées. Qu'est-ce qu'on peut dire dans une fiction qu'on ne peut pas dire dans un sujet, Jérôme Cornuau ?
C'est-à-dire que c'est faire exister, aller vers les purs et vers un traitement naturaliste et faire exister des personnages en s'inspirant de la réalité, en fait. Et qu'un reportage, on va être immédiatement choqué par la violence, on n'imagine pas ça. La fiction permet de comprendre comment les personnages peuvent arriver là-dedans. C'est un vrai passage de relais de l'un à l'autre, je trouve.
Justement, je vais passer le relais de l'un à l'autre. Est-ce que chacun a vu le travail de l'autre ? Est-ce que vous avez vu le reportage de Pauline Liétard, Jérôme Cornuau ?
Oui, je l'ai vu malheureusement après. J'étais assez content parce que la série suit tout de même beaucoup la réalité.
Ouais. Vous êtes dit j'ai raté quelque chose ou j'avais pas vu cet aspect-là ?
Non, parce que nous on est parti sur une famille.
Une famille heureuse, alors que dans les reportages, il y a quasiment presque uniquement des mères seules.
Ouais. Oui, c'est sûr que c'est. On le voit dans les études, hein, beaucoup de familles monoparentales qui sont concernées, beaucoup de familles où il y a de la violence conjugale, de la violence sur les enfants. Voilà. Après, c'est sûr que ça peut arriver à toutes les familles s'il y a une vulnérabilité de l'enfant, mais il y a une prédominance des familles.
Même chose, vous avez vu. Et alors ?
Moi, c'est sûr qu'en voyant la fiction, ça fait plaisir de voir les scènes de famille, de vie de famille du quotidien que moi j'aurais adoré filmer, mais qui sont très compliquées à filmer, surtout dans un temps quand même relativement court. Et je trouve que c'est très intéressant de montrer cette pente glissante et voilà, qui montre vraiment comment on peut aller vers ça.
Et moi, ce que je trouvais absolument passionnant, c'est de faire ce qu'on a fait aujourd'hui pour la première fois, d'avoir une réalisatrice de documentaire et un réalisateur de fiction sur le même sujet et qui sont peut-être les deux versants de la même pièce. On ne peut pas tout montrer à la télévision. Merci beaucoup Pauline Liétard, merci beaucoup Jérôme Cornuau. Je rappelle Fugueuse, ce soir à 21h sur TF1, suivi du doc Prostitution, ado en danger. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. Vous allez retrouver les télescopages de Bruno Donnet. Aujourd'hui, il a tout compris à la crise des sous-marins australiens. Vous verrez comment et pourquoi. Notre invité, c'est l'humoriste et comédienne Claudia Tagbo pour la nouvelle série OCS qui s'appelle Frérot. Et puis dans les indispensables, Nicolas Caro qui va nous faire découvrir un roman en lice pour le Renaudot et Margot Barallon nous donne ses impressions sur la série très attendue Germinal. L'humoriste et imitateur Marc-Antoine Lebray en fin d'émission évidemment. À tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.